7h15 minutes, Monsieur McSween. On commence ce matin par cette action collective qui a été autorisée contre Air Canada au sujet de la surcharge du carburant.
Oui, c'est très intéressant d'un point de vue comptable. Je sais que ça a l'air bizarre, mais dis, écoute, quand tu regardes les états financiers d'une compagnie aérienne comme Air Canada, c'est quoi le carburant? C'est comment ça représente en coût? Et nous, comme consommateurs, comment on peut évaluer si le carburant est correct au niveau du prix? C'est pas évident. T'sais, les gens qui ont fait le travail, tout ça, ils sont donné la peine de dire « Est-ce que je me fais avoir pour la surcharge? » Et quand on va voir le carburant dans les états financiers d'Air Canada, on se rend compte que ça représente sur un trimestre, le dernier trimestre, là, 991 millions sur des revenus de 4,8 milliards. Donc, c'est 21% des coûts. Donc, imagines-tu quand tu changes tes revenus en fonction du coût du carburant, comment ça peut influencer de façon positive ta marge nette? Et parlant de marge nette, plus propre que le carburant, on s'en va les actions Air Canada depuis 2016. L'action est passée de 7,5$ à 44$. Mm-hmm. Tu sais, on regarde beaucoup les fintechs puis les actions qui explosent, mais on oublie que d'une bonne vieille business comme Air Canada est passée d'une situation difficile à « wow, je veux avoir des actions, je veux les vendre. Si j'étais PDG, j'aurais le goût de faire de l'argent avec ces actions-là. » C'est une blague. Mais tu comprends que depuis un an, on a fait 85% de rendement là-dessus, mais sur les actions, mais quand même, le carburant chez Air Canada, c'est un coût majeur. Et évidemment, si on joue de quelques pourcentages sur le carburant, on change de façon significative les revenus. Alors la question, c'est, ils ont fait ça combien de temps? Depuis quand? Sur quel vol? Est-ce que c'était volontaire?
Je pense que le prix du carburant avait baissé, mais il avait oublié de baisser la surcharge.
Oui. C'est comme... Oui, combien de fois par année comme ça, il oublie? Tu sais, ça, c'est comme un peu, hein, aux stations d'essence au coin de la rue. Quand le prix du baril de pétrole augmente, il oublie pas de nous augmenter. Mais quand il descend, il dit « Ah! » C'est le temps que la marge de raffinage se rajuste, donc tu sais, c'est pas la même vitesse.
Exactement. Je regardais ce matin. Moi, je reviens à la transaction là, quand même, là, parce que ça, j'avoue que comme actionnaire, je peux me réjouir peut-être, là, je ne le suis pas, là, mais je peux comprendre que de Transat et Air Canada, mais comme consommateur, je trouve pas ça comique. Là.
Non, mais
non, pas
écoute,
tout.
Comme je te dis, Paul, je te l'ai dit hier, la meilleure façon de pas te faire avoir par les compagnies aériennes, c'est de pas voyager.
Non, je sais bien, là, mais c'est quoi? Je regardais ce matin les chiffres. Si tu combines Air Canada, c'est dans la presse, là, puis la source est Transat. Si tu combines Air Canada puis Transat, là, capacité vers l'Europe cet été, 62%, là, ce serait Air Canada Transat. T'as rendu compte?
C'est quand même beaucoup de concentration des trajets, disons.
Ouais, puis,
donc, s'ils comblent l'offre, ça fait plus beaucoup de place pour la concurrence, effectivement. T'as raison.
Et dans le cas du Sud, là, les destinations soleil pour l'hiver, là, Transat Air Canada, ça ferait presque 50 %, là, 46 %.
Bon, écoute,
mettons que
tu trouves d'autres lignes, mais tu sais, la question, c'est est-ce qu'il y aura une saine concurrence entre les deux entreprises sous le même giron de l'actionnaire?
Bon, est-ce qu'on s'assure ou pas pour la vie, M. McQueen?
Ben, écoute, il y a un gars qui m'écrit ça hier, il dit « Écoute, moi, je me suis jamais assuré pour la vie, je sais pas pourquoi ça t'intéresse. » Il dit, tu sais, c'est sûr que si t'es célibataire, puis que tu meurs, puis que t'as pas d'enfant, puis t'as pas de descendance, assure-toi pas. Il y en a d'autres qui disent, moi, l'assurance de mon employeur, qui est, par exemple, un an de salaire, c'est correct. Mais là, hier, j'ai reçu deux lettres, puis je voulais en parler parce que j'ai reçu deux lettres d'assurance de deux compagnies d'assurance différentes, auxquelles je suis assuré, ils se sont parlé, ils m'ont envoyé ça en même temps, et ça m'envoyait mon rapport d'où je suis rendu dans la vie ou de ma quête vers la mort. Et j'ai remarqué comment j'étais assuré avec le temps et comment on m'avait assuré. Et ce qui est drôle, c'est que la première question à se poser, c'est pourquoi dois-je m'assurer? Ben, je m'assure pour combler un salaire. Puis Paul, plus je vieillis, moins c'est logique de m'assurer parce que plus l'avenir de mes enfants est assuré et plus je m'approche de ma retraite et de leur départ vers mon bonheur. Tu comprends? Mm-hmm. Alors, l'assurance sert juste à remplacer notre salaire. C'est ça le but. Alors, la majorité des gens, la grande majorité des gens, devraient prendre une assurance vie temporaire et payer quelques dollars par mois pour être assuré. Mais on s'assure beaucoup de façon pleine et entière ou de façon universelle. On voit souvent trop l'assurance comme « faut que je laisse de quoi à mes enfants ». Mais pourquoi? Pourquoi on prend toute notre vie de l'argent de côté pour assurer notre mort, alors que si on meurt très, très vieux, on aura payé toute notre vie, ça sera un placement pour nos héritiers, mais ils seront rendus à un âge où ils n'en auront peut-être pas nécessairement besoin et nous, on va s'être privés de liquidité toute notre vie à des moments où c'est névralgique. Alors, quand vous prenez une assurance vie universelle ou pleine et entière, vous pouvez voir ça comme un placement pour la prochaine génération ou pour vous-même. sous certaines formes, mais il en demeure pas moins que on est tellement trop assuré là-dessus. Moi, je dirais vraiment, il y a un gars demandé, il m'a dit, Pierre, je veux s'assurer pour mes impôts. Je dis, qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, il y a un gars de l'assurance qui est venu chez nous, puis il m'a dit, hey, assure-toi pour tes impôts comme ça, quand tu vas mourir, ta succession ne paiera pas d'impôts. Et il dit, c'est une maudite bonne affaire, tu vas pas payer d'impôts.
Ah, parce que tu ne payes pas d'impôts sur une assurance vie, c'est ça?
Non, sauf que c'est la vraie vérité, là. La vérité, c'était, je vais t'assurer pour un montant équivalent à l'impôt de succession. Mais si tu as déjà de l'argent dans tes placements pour payer l'impôt, pourquoi tu te priverais de liquidité toute ta vie pour aller payer l'impôt sur ta mort? À moins vraiment de vouloir léguer quelque chose qui a un gros gain en capital puis tu veux pas que les enfants soient obligés de vendre. Mais chose certaine, on s'assure trop. C'est une bonne réflexion à avoir personnellement. Est-ce que je m'assure trop? Moi, il voulait m'assurer pour 2 millions. Il dit, mettons que tu meurs, tu sais, ta conjointe va pas s'en remettre. Puis là, j'avais fait la blague à l'assureur. Combien ça coûte un voyage dans le sud? Il m'avait dit, ben, 2000 piastres. Ben, c'est tout ce que ça va me prendre, tu sais. C'était une blague, évidemment. À demain, monsieur.
Oui, à demain. Puis je pense que tu recevras des courriels de l'industrie du monde de l'assurance.
Oui, je sais. Puis j'imagine. Du cyclisme aussi.
Probablement. Salut, 7h20.